il y a un virus dans notre pays qui est aujourd'hui beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était auparavant parce qu'il est beaucoup plus contaminateur. Et donc, il nous faut prendre des mesures.
La France est dans sa quatrième vague épidémique et l'extension du pass sanitaire est donc indispensable, dit le gouvernement. Le Conseil d'État, lui, n'est pas d'accord sur toutes les mesures proposées. Et sans pass sanitaire, en tout cas, plus de cinéma. Dès demain, il sera obligatoire dans les salles obscures. Nous serons avec Marc-Olivier Sebag, délégué général adjoint de la Fédération nationale des cinémas français. La Belgique rend hommage à ses morts aujourd'hui après les inondations de la semaine dernière. C'est une journée de deuil national. Et puis à la fin de ce journal, on va faire un tour dans les parcs parisiens, voir comment ils profitent du beau temps. À suivre, l'éclairage éco de Maud Descamps et les embauches qui reprennent nettement. C'est une bonne nouvelle après la crise. Votre conseil santé avec le docteur Brigitte Millot. Comment bien gérer son déménagement? Leur nombre explose cet été. Et puis un nouveau portrait olympique jusqu'au JO vendredi avec Corinne Boulou. Ce matin, l'ancienne nageuse Laure Manaudou. Très bon réveil. Il est 7h01. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Cela fait plusieurs semaines que les médecins en parlaient et la France, ça y est, c'est dit, connaît une vraie reprise de son épidémie.
Nous y sommes. La France est entrée dans cette quatrième vague, déclaration hier du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les mesures du pass sanitaire sont donc indispensables. On détaillera les tenants et les aboutissants et leurs conséquences dans un instant.
Le Conseil d'État qui a globalement rendu un avis favorable, mais les hauts magistrats ont émis quelques réserves.
La vaccination obligatoire des les soignants ou la mise en place du pass sanitaire, c'est oui. Les contrôles entre 8h et 23h en cas d'isolement obligatoire, c'est non. L'amende pour les restaurateurs qui ne contrôleraient pas leurs clients, elle, est rabaissée. Claudia Bertram, le gouvernement a dû revoir sa copie.
Et l'exécutif desserre un peu l'étau. Le gouvernement maintient le calendrier annoncé, mais certaines remarques du Conseil d'État ont été prises en compte. L'extension du pass sanitaire est confirmée, y compris dans certains centres commerciaux. Le Conseil d'État avait émis des réserves. Le gouvernement propose qu'il soit maintenu si des commerces de première nécessité se trouvent à proximité. Autre annonce hier soir, les sanctions pouvant toucher les professionnels chargés de contrôler le pass sanitaire dans leurs établissements sont revues à la baisse. L'amende initiale de 45 000 euros en cas de manquement passe à 1 500 euros, 9 000 en cas de récidive. Et puis, une période de rodage est prévue, une semaine ou plus, pour accompagner les professionnels dans la mise en place du pass sanitaire. Il n'y a aucune envie de piéger qui que ce soit, c'est ce qu'a assuré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Désormais, c'est un marathon parlementaire qui débute dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Les précisions de Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Le pass sanitaire entre donc en vigueur demain. Tout est allé très vite depuis les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier.
Bah par exemple, si vous voulez aller au cinéma, à partir de demain, il vous faudra un pass sanitaire. Nous sommes ce matin avec Marc-Olivier Sebag, délégué général adjoint de la Fédération nationale des cinémas français. Bonjour. Ah, on a toujours perdu Marc.
Marc-Olivier Sebag, est-ce que vous êtes encore avec nous ?
Oui, oui, bonjour.
Ah, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous.
Je vous en prie.
On le disait, tout est allé très vite. Comment avez-vous eu le temps de vous organiser ? Comment ça va se passer demain, par exemple, si je veux aller voir un film ?
Alors déjà, on découvre le décret qui est paru aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui se posent, parce que nous, ce qu'on demande, c'est que les cinémas soient traités comme les autres secteurs et qu'on ait un peu plus de temps, parce qu'effectivement, ça fait une semaine que cette annonce de passe sanitaire a été faite. C'est très, très peu de temps. Si le décret s'applique bien demain pour les cinémas, autrement dit si nos recours ne prospèrent pas, il sera appliqué dans les cinémas. Il y aura un contrôle à l'entrée de chaque cinéma, mais il y a plein de questions encore en suspens qui ne sont pas réglées, puisque la loi qui va s'appliquer à tous les lieux recevant du public n'est même pas encore examinée par le Parlement. Et donc on est dans une situation compliquée pour les entreprises et les salariés. Pour les spectateurs, il faudra qu'ils présentent leur passe sanitaire. D'une certaine façon, la situation la plus simple, c'est celle des spectateurs. Mais
quelles questions se posent pour vous encore, Marc-Olivier Sebag ? Les concerts et les festivals ont mis en place sans trop de soucis ce passe sanitaire il y a un mois. En quoi est-ce que ce serait plus compliqué pour les cinémas ?
La grande différence, c'est que quand vous allez au concert ou au festival, vous allez réserver à l'avance, vous êtes dans une démarche très structurée dans votre calendrier, dans votre mode d'approche, alors que pour les cinémas, on est dans un plaisir d'impulsion. Vous décidez dans les quelques heures qui précèdent d'aller au cinéma. Vous n'organisez pas une sortie. Et d'ailleurs, bien heureusement, le coût d'aller au cinéma est très faible au regard de ce que vous pouvez dépenser pour un festival dans lequel vous allez passer probablement la journée ou en tout cas un nombre d'heures conséquent. Et donc, puis aussi la grande différence, c'est que les festivals et les grandes scènes musicales ont eu beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Elles ont eu plus de 3 semaines pour s'organiser en faveur du pass sanitaire, alors que cette surprise, hein, pour l'ensemble des secteurs, il est d'une semaine. Et surtout, nous, ce qui nous choque, c'est que pourquoi la culture devrait mettre dès demain, alors que, heureusement pour eux, les autres secteurs ont une semaine, 10 jours de plus. C'est important. Nous ne nous sommes pas du tout opposés au principe du pass sanitaire. Si le gouvernement estime que c'est une obligation pour lutter contre l'épidémie, eh bien, nous l'appliquerons puisque nous voulons lutter contre l'épidémie et sommes favorables à la promotion de la vaccination. Donc, notre problématique n'est pas une problématique de fond, mais une problématique de droit et d'organisation. Et nous espérons pouvoir faire que ce pass sanitaire se mette en place dans les meilleures conditions pour les exploitants de salles de cinéma, pour leurs salariés et pour les spectateurs.
Merci Marc-Olivier Sebag, délégué général adjoint de la Fédération nationale des cinémas français. Le pass sanitaire en vigueur donc demain dans les cinémas, alors que voilà, on attend de grosses sorties en plus après le festival de Cannes ou des sorties de films populaires comme Kaamelott pour n'en citer qu'un.
Absolument, et on l'a compris, hein, tout ça est à double tranchant. Le pass sanitaire aura, quoi qu'il arrive, un impact sur l'activité économique. Si on revient un tout petit peu en arrière, on voit qu'avec les dernières réouvertures des restaurants et des bars, eh bien, l'emploi salarié au premier semestre a augmenté. Est-ce qu'il faut y voir un frémissement de la reprise? En tout cas, certaines entreprises en ce moment se portent bien. Nous sommes près de Saint-Omer ce matin, chez un grossiste en boissons qui justement alimente café, boîte de nuit, restaurant. Reportage signé Maximilien Carlier.
Devant l'entrepôt, un camion rempli de bière, vin, soda, direction les établissements sur le littoral dunkerquois. Et on sent que le chauffeur est assez pressé.
Là, c'est la course en ce moment. Et c'est un boom, hein, je veux dire. Avec le beau temps, tout le monde travaille, donc il faut ravitailler tout le monde, quoi. Café, hôtel, restaurant.
Des va-et-vient de palettes, il n'y a que ça ici. Depuis la reprise, ce grossiste en boisson a 100 de clients supplémentaires, chiffre d'affaires en hausse. Laurent Péqueur, directeur de Sony Boisson.
Si on compare juin 21 par rapport à 2019, on est à 30% de plus. Par rapport à 2020, forcément beaucoup mieux, quasiment 50%. Et juillet, je pense qu'on va finir entre plus 20 et plus 30. Oui.
De très bons résultats cette année, car il a fallu reconstituer les stocks pour beaucoup de cafés et restaurants. Cette croissance a engendré tout de même des embauches depuis début mai, des magasiniers, des conducteurs de poids lourds, dans l'administratif également.
Là, on a recruté 15 personnes. On en a encore 3 qui démarrent cette semaine. Ça marche, on se développe, c'est dans les moments difficiles qu'il faut investir et prendre un peu de risques.
Alors bien sûr, il y a un rebond selon ce grossiste en boisson, mais il se demande si ça va durer avec la 4e vague annoncée et surtout le pass sanitaire dans la restauration. Le Linguem, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et la reprise économique qui semble être là, on y revient juste après ce journal, ce sera justement l'éclairage éco signé Maud Descamps.
À l'étranger, la Belgique s'apprête à rendre hommage aux victimes des inondations de la semaine dernière, journée de deuil national, alors que 36 personnes ont perdu la vie. À midi pile, les sirènes retentiront, le pays va se figer pour une minute de silence. Et sur le terrain, Isabelle Horry, on sait qu'il faudra du temps pour que les zones sinistrées retrouvent un tout petit peu de semblant de normalité.
Oui, on en est vraiment loin. L'heure est encore au déblayage des débris, au relogement, à la recherche des victimes. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. L'émotion reste très vive, même du côté des autorités. Le chef du Centre national de crise, Bart Remakers, a craqué hier en conférence de presse en évoquant la catastrophe qui arrive en pleine épidémie de coronavirus.
Tout le monde espérait vivre enfin un été plus calme, mais le destin en a malheureusement décidé autrement. Ce sont en général les pires moments qui permettent de faire émerger le meilleur de l'être humain. Les nombreux témoignages de solidarité spontanée nous donnent incontestablement le courage de continuer. L'union fait la force.
L'union fait la force, c'est la devise de la Belgique qui célébrera demain sa fête nationale, 100 balles à Bruxelles et avec un défilé militaire réduit. En parallèle, les assureurs vont continuer d'évaluer les dégâts qui devraient se chiffrer en centaines de millions d'euros alors que les premières critiques se font entendre sur le manque de moyens des secours ou encore sur la mauvaise gestion des barrages. Mais il faudra sans doute du temps, là aussi, pour y voir plus clair dans les responsabilités.
Isabelle Horry pour Europe 1.
7h09, réunion au sommet à droite. Aujourd'hui, le Parti Les Républicains réunit plusieurs de ses candidats potentiel à l'élection présidentielle.
Pour tenter de s'entendre en amont du scrutin, il en manquera toutefois un, l'ex-LR Xavier Bertrand. En tout cas, on sent que la présidentielle approche. Et c'est pour cela que ce matin, sur Europe 1, on va s'intéresser à une toute nouvelle arme numérique, une agence contre les ingérences numériques étrangères, précisément pendant les élections, toutes les présidentielles. Elle s'appelle Viginum. Gladys Laffitte, qu'est-ce que c'est précisément ?
Eh bien, il s'agit d'une cellule spéciale qui détectera ce qu'on appelle les attaques informationnelles, c'est-à-dire les manipulations artificielles d'informations sur les réseaux sociaux, par exemple, opérées par des États étrangers de manière directe ou plus indirecte. Les détecter, mais surtout les analyser pour savoir avec précision qui se cache derrière ces manipulations numériques de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Ensuite, le but est de sensibiliser les différents acteurs qui pourraient relayer de fausses informations sans le savoir, partis politiques, hébergeurs et même journalistes. D'ailleurs, le CSA est largement associé à ce travail qui se fera sous l'égide du Secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale, le SGDSN. Il faut comprendre que cela s'inscrit dans un travail bien plus global, hein, avec d'autres services de renseignement notamment, comme la DGSI ou la DGSE, très actifs dans la lutte contre les ingérences étrangères en général, pas seulement numériques, surtout en période électorale. Selon nos informations, des membres des partis politiques représentés au Parlement ont tous été reçus en toute discrétion par le SGDSN, tout comme les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et des commissions parlementaires concernées.
Les précisions de Gladys Laffitte du service Police-Justice d'Europe 1.
Enfin, on ne va pas bouder notre plaisir. Laurent Cabrol nous le disait il y a un instant, c'est une très belle journée, un peu de soleil, ça fait du bien dès le petit déjeuner.
Enfin, il est de retour, notamment sur la moitié nord du pays. Alors pour certains qui sont en vacances, ils en profitent bien. Pour les autres bloqués dans les grandes villes, il reste les parcs et les jardins, illustrations à Paris où Damien Mestre a vu réapparaître une catégorie assez précise d'habitants, ceux qui font la bronzette au parc.
Ça fait un bien fou de voir un peu le soleil. Avec les confinements, etc., on a besoin d'être dehors.
Il n'y a presque que ça dans le parc, des gens qui bronzent, comme autant de petites taches colorées étendues sur la pelouse. Chacun son style, chacun ses ambitions.
Je reviens de vacances, donc j'essaye d'entretenir un peu, mais j'ose pas sortir le maillot dans un parc à Paris.
D'autres ont moins de réserves, slip de bain, lunettes de soleil.
Sur la pause du midi, je prends mon petit pique-nique et je viens bronzer. C'est pas mal. Ça donne l'impression d'être en vacances alors qu'on l'est pas.
C'est que la bronzette est presque un art. Il faut choisir le meilleur moment, profiter des rayons tout en évitant la foule.
Il y a du matériel déjà, il y a deux serviettes, un petit truc pour se vaporiser de l'eau, vous êtes un professionnel.
Ah, bah oui, moi je suis un lézard. Là c'est du bonheur, il y a le soleil, on est tranquille, puis il était temps quoi, parce qu'il y en avait marre.
Il ne manque rien, ou presque.
C'est dommage qu'il n'y ait pas une piscine ou de l'eau, ou je sais pas, un truc pour se rafraîchir parce qu'il fait trop chaud.
En même temps, si je puis me permettre, vous vous êtes mis en plein soleil.
Oui, mais c'est fait exprès.
Mais au-delà de l'aspect réjouissant de revoir enfin tous ces maillots de bain dans les parcs, on retiendra ce conseil à appliquer dès le plus jeune âge.
Le soleil, ça fait toujours du bien pour avoir des vitamines D.
Voilà, ce sont les plus petits, les plus sérieux, finalement, contrairement à Damien Mestre, hein, qui en a bien profité.
Merci, c'était le journal de Lénaïque Monnier. Il est 7h13 sur Europe 1.